Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Noé Moutier, Claude Janin et Noël Goutenoir.
Y a-t-il eu une capitale ségusiave du temps de l'indépendance? Ici, oui, où? Il est communément reconnu que Feurre joua un rôle majeur dans la région à l'époque romaine, voire en fut capitale. Son nom de Forum Ségusiavorum, gravé sur des pierres de l'époque, en attesterait. Certes, pour autant, chacun sait qu'avant l'époque gallo-romaine, le peuple celte des Ségusiaves régnait sur un territoire correspondant au département du Rhône et de la Loire d'aujourd'hui. Feurre en était-il déjà la capitale, avant que les Romains n'envahissent la Gaule? Nous avons aujourd'hui autour de la table deux archéologues travaillant ces questions. Monsieur Contreau, c'est l'un de vos sujets de travail. Qu'en pensez-vous?
Le positionnement d'un forum Ségusiavorum à l'emplacement de l'actuel Feurre ne fait pas de doute pour l'époque gallo-romaine. Les trouvailles archéologiques vont dans ce même sens si la date à laquelle elle se vit attribuer ce statut reste imprécise.
Certes, mais la question d'antériorité d'une capitale de la période de l'indépendance celte reste posée. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Elle a animé la Diana, célèbre association d'histoire locale, dès le 19e siècle. Feurre est en pleine. Or, l'on sait que les Celtes, surtout durant les deux derniers siècles de leur indépendance, préféraient les sites en hauteur. Dans la Loire, les vestiges des oppidas de Gevres, Crèche-Châtelard ou Essalois sont là pour nous le rappeler. C'est donc plutôt sur les hauteurs de nos collines qu'à mon avis, il faut chercher l'emplacement d'une capitale celte du temps des Ségusiaves.
Mais nous n'avons aucune certitude sur le fait même que les Celtes, à l'époque de leur indépendance, aient une capitale. Tout au plus, peut-on supposer que les oppidas ont pu jouer un rôle de pôle économique, religieux, voire politique, mais sans y avoir le statut de capitale. Car comme le soulignent Vaginet, Guichard et Julia, le temps des oppidas a correspondu à une véritable organisation sociale. Je les cite, « Les deuxième et premier siècles avant notre ère coïncident avec le développement de la civilisation des oppidas, qui concerne la majorité de l'ère celtique. Ce phénomène ne peut se justifier par le seul réflexe de défense. L'oppidum celtique est aussi le produit d'une profonde mutation économique et sociale entamée dès le deuxième siècle avant notre ère. L'apparition dès ce moment de la monnaie et d'un système où elle acquiert un rôle d'unité de valeur prépondérant sont parmi les plus nettes de cette transformation. »
Et donc, pourquoi l'un d'entre eux n'aurait pas pu être capital?
Vous pensez à un en particulier?
Oui, par exemple celui de Gevres, face à Saint-Jean-Saint-Maurice. Avec ses 75 hectares de superficie, il était le plus important de tous, Châtelard et Essalois ne dépassant pas les 25 hectares. De plus, il était situé au sortir des gorges de la Loire, là où elle commence à être plus navigable. Il a donc pu être lieu portuaire pour le transport fluvial. Comme le souligne d'ailleurs Perrichon, que je cite, les oppidas du Crèche-Châtelard et Gevres ont servi de point de rupture de charge des transports fluviaux. C'est également possible et les quantités d'amphores Dressel 1 découvertes sur les deux sites tendraient à le prouver. Enfin, il est fort probable que le pont, dont il reste quelques ruines au fond de la retenue d'eau de Villeray, ait dès cette époque supporté le passage d'une voie reliant le Rhône au pays Arverne.
On peut supposer, il est fort probable. En fait, vous n'êtes sûr de rien.
Non, c'est sûr. Si je puis dire. Mais pas plus ni pas moins que vous. Devant l'absence d'écrits de l'époque celte, nous sommes, vous et moi, obligés de chercher à comprendre le monde d'alors à partir de vestiges, des trouvailles archéologiques, de ce qu'a pu être le paysage et les modes de vie à cette époque, et des écrits romains qui, eux, convenez-en, ne sont pas forcément objectifs. Et nous voici contraints, vous et moi, de confronter nos hypothèses plus que nos certitudes.
C'est un peu facile. À l'époque de Feurre, nous avons la preuve de l'être gravé datant des Romains.
Oui, d'accord, mais nous n'avons aussi pas l'équivalent pour les Celtes.
Alors c'est quoi vos hypothèses?
Tout d'abord, la toponymie peut nous aider. Plusieurs lieux, nommés Ygrande, qui d'après sa racine celte signifierait « porte », se situent autour du territoire Loire-et-Rhône actuel, qui a pu être celui des Ségusiaves. Ils ont pu en être les portes d'entrée. D'ailleurs, ils se situent à des passages de voies de communication probables, le fleuve Loire au nord, vers Ygrande, la route vers les Arvernes à l'ouest, et au sud, vers les Vélaves, aux environs du Saut-en-Forêt. Au-delà de nous indiquer ce qu'ont pu être les limites du pays ségusiave, ils peuvent être un indice de l'existence d'une organisation politique capable d'organiser son territoire. Pourquoi alors ne serait-il pas logique qu'il y ait eu une capitale?
Et qui se serait située où?
pourquoi pas Gèvres, j'y reviens, qui bénéficie d'une situation portuaire similaire à celle de Vienne, reconnue métropole des Allobroges par le géographe romain Strabon. Rappelons-nous que deux siècles avant notre ère, Roanne et Feurs étaient apparemment de simples bourgades. Mais je vous l'accorde, rien ne certifie que cet oppidum ait pu être capitale politique.
Alors ?
De toute façon, comme je l'ai dit, il faudrait plutôt chercher dans les collines. L'ensemble des monts pouvait constituer une vaste forteresse naturelle qui, tout en étant proche des fleuves, était défendable facilement. Je parle là des monts du Lyonnais. Cette hypothèse est cohérente avec l'origine étymologique probable du nom Ségusiave, tel que Perrichon l'interprète. Je le cite. Le nom Ségusiave ferait habilement référence à un puissant domaine d'altitude visible de tous et par métonymie à la puissance victorieuse de ses occupants. Parmi les options de capitale développées dans les débats de la Diana, Saint-Symphorien-sur-Coise, au cœur du mont du Lyonnais, est ainsi souvent évoqué. C'est un point de croisement entre le chemin sommital identifié comme Iter-Vienensis et qui allait de Vienne à Gèvres et la voie aquitaine connue à l'époque romaine. L'antériorité celte de cette dernière, il est vrai, n'est toutefois pas avérée. Soulignons juste qu'il peut paraître logique que les monts entre Loire et Rhône aient été habités à l'époque celte, au vu de leur situation pouvant être aisément défensive, et qu'il peut paraître logique que s'il y eut une capitale, elle a pu se situer au cœur de ce massif.
Et qu'est-ce que vous faites de Forum Ségusiavorum ?
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Une capitale celte en situation sommitale a pu exister, puis celle-ci a pu être concurrencée volontairement par le fait des Romains, qui créèrent des villes puissantes en plaine afin d'établir leur influence sur ces Gaulois qu'ils jugeaient certainement récalcitrants au changement. S'il peut en être ainsi pour Feurs et Roanne par rapport à Gèvres, d'autres situations peuvent être comparables, Clermont par rapport à Gergovie et Autun par rapport à Bibracte. Voyez, finalement, notre discussion n'est qu'un débat entre des hauts et des bas.
Merci messieurs.
C'est nous qui vous remercions.
Microhistoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Noé Moutier, Claude Janin et Noël Goutenoir.